un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
Avant de regarder les chiffres qui sont clairement alarmants, on peut parfois simplement compter autour de soi le nombre de jeunes filles et de jeunes garçons qui vont mal, sont victimes de harcèlement, souffrent de troubles alimentaires, de phobies scolaires, ont des conduites addictives ou suicidaires. Et ça ne semble pas s'arrêter. En 2021 et jusqu'à ce printemps, explique Santé publique France, la flambée des jeunes arrivant aux urgences psychiatriques pour ce genre de mal-être a même augmenté. Ça n'est pas non plus un phénomène récent, explique une pédopsie dans Libération, mais une tendance ancienne, exacerbée par le Covid et des facteurs très divers parmi lesquels les réseaux sociaux ne sont pas les seuls. Nous avons donc décidé, au pied sur terre, de consacrer quelques épisodes à cette épidémie silencieuse pour laquelle il n'y a, hélas, pas de vaccin. Le jeudi 2 juin, la défenseuse des droits, Claire Hédon, demandait d'ailleurs à la première ministre Elisabeth Borne la mise en place d'un plan d'urgence. En attendant les moyens, tout de suite, l'histoire de Jean-Baptiste, premier épisode par Sophie Simoneau.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle JB, j'ai 18 ans, je suis né en 2004. Actuellement, je suis en classe de première et j'habite à Paris. Moi, pour mon cas, les 10 premières années d'école, elles sont passées assez comme tout enfant de mon âge, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que j'ai passé une maternelle assez classique, où est-ce que j'allais à l'école, je rentrais, etc. J'étais tout content d'y aller. En ce qui concerne la primaire, c'était la même chose. J'aime bien même l'endroit, l'ambiance, les camarades, les maîtresses. Bon, j'avais pas non plus énormément de copains, mais le peu que j'avais, je m'en contentais et j'étais content. Puis c'était assez convivial, c'est-à-dire, vu que c'était une petite école, même si t'étais en CE1 ou quoi, il y avait des CM2 qui venaient te parler dans la cour de récréation, qui te proposaient de jouer au foot avec eux, ou enfin plein de trucs comme ça, donc c'était quelque chose de plutôt cool, ouais. Parce qu'en plus, c'est les premières années d'école, donc je pense que c'est les années qui te font ouvrir les yeux sur le monde et qui te font découvrir un peu tout ce qui se passe autour de toi. Par exemple, je me rappelle que quand j'étais plus petit, j'étais quelqu'un qui disait jamais non. Je disais tout le temps oui dès qu'on me demandait quelque chose. Même si on me demandait mon goûter, si on me demandait un stylo, si on me demandait, je sais pas, d'aller faire un truc ou autre, ma réponse, c'était forcément oui. Et à force d'aller à l'école et de me rendre compte que dire oui, c'était pas tout le temps bon, bah même ça, une fois, je crois, c'est une maîtresse, je crois, qui est venue me voir et qui m'a dit, faut que t'arrêtes de dire oui, faut dire non. Enfin, ça apprend des trucs, quoi. Après, il y a eu le CM2. Le CM2, pour moi, ça a été une année assez difficile. C'est une année durant laquelle j'ai commencé à développer un sentiment de mal-être à l'école puisqu'il s'est passé un événement assez particulier. Je me souviens, c'était après la récréation du midi. Et il faut savoir que moi, quand j'étais petit, j'étais quelqu'un qui détestait aller aux toilettes dehors. Donc, c'est-à-dire si j'allais aux toilettes ailleurs que chez moi, c'était vraiment que c'était une grosse urgence et que je pouvais pas du tout me retenir. Vraiment, c'était la catastrophe. Et ce jour-là, j'étais mal, j'avais mal au ventre, je me sentais pas bien. Et donc je suis allé aux toilettes, j'ai fait mes besoins, etc. Je regarde autour de moi, je vois il y avait plus de papier toilette. C'est-à-dire, je sais que je peux pas sortir des toilettes comme ça. Donc j'attends. Il y a une fille qui rentre, qui était une amie à moi. Donc j'entrouvre la porte, elle me donne du papier toilette, je me suis. Et juste après, j'entends un groupe de garçons qui rentrent dans les toilettes. Et la fille qui dit... Il y a JB qui est en train de faire caca. Et du coup, je sors et je vois il y a tout un regroupement dans les toilettes qui commence à crier « Ouais, il s'est fait dessus », tout ça. Du coup, moi, forcément, je me sens assez gêné. J'étais très sensible. Donc, je commence à pleurer. Je commence à me mettre dans un coin de la cour. Je sors des toilettes. Je me mets tout au fond, je me cache, sauf que tout le monde me suit. Puis tout le monde commence à crier, quoi, en disant que je me suis fait dessus. La maîtresse, elle arrive, elle m'emmène à l'accueil. Puis là, elle s'est rendue compte que j'étais vraiment malade. Et elle appelle ma mère. Puis après, je suis pas retourné à l'école pendant 2 semaines, puisque j'avais trop honte d'y retourner. J'osais plus voir mes camarades. Ce qui fait que ma mère, elle en a fait part à l'école. Et comme solution, ils ont trouvé de faire des lettres d'excuses. Tous les camarades des niveaux CM1 et CM2 qui se sentaient concernés par l'histoire pouvaient faire un petit mot sur un papier ou un dessin disant qu'ils étaient désolés d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Du coup, ma mère est allée chercher les lettres d'excuses à l'école en se disant que peut-être ça allait me remotiver à y aller. Sauf qu'en lisant toutes ces lettres-là, du coup, les lettres, elles étaient signées avec des prénoms, ça m'a encore plus dégoûté. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens avec lesquels j'étais depuis la petite section, avec qui je les voyais tous les jours, je leur parlais tous les jours. J'étais allé à leur anniversaire, surtout quand t'es petit, aller aux anniversaires, c'est quelque chose de très important. Qu'ils sont mis à se moquer de moi. Je me sentis trahi. Je me sentais bête, je me sentais humilié. J'avais honte. Honte de s'être fait pointer du doigt par ses camarades. Honte d'avoir été naïf sur certaines choses. Parce que tu te rends compte que même ceux qui étaient là pour toi, avec qui t'as fait les 400 coups depuis que t'es à l'école, bah ils ont retourné leur veste et puis ils se sont mis à te pointer du doigt aussi avec les autres. Ah, forcément, ça fait mal. Et forcément, après, ta confiance sociale en prend un coup. C'est à partir de ce moment-là que vraiment l'école, ça a commencé à devenir problématique pour moi. Donc après, je suis allé au collège, donc je suis rentré en 6e. Quand je suis rentré en 6e, je me sentais déjà mieux, parce que du coup, je connaissais plus personne. C'était entre guillemets un nouveau départ. Sauf que malheureusement, j'étais dans un établissement dans lequel ils mettent beaucoup la pression. C'est-à-dire en 6e, ils nous parlaient déjà du bac. C'est quelque chose qui m'a marqué. Parce que quand t'arrives en 6e et que t'as ta prof qui dit à ta mère en réunion de professeurs, mot pour mot, qui lui a dit « Votre fils, il serait pas autiste parce qu'il comprendrait à ce qu'on lui dit. » Du coup, ma mère, elle répond non. Et la prof lui répond « Parce que vous savez, il a le bac après à passer. » Et moi, quand j'ai su ça, ça m'a fait quelque chose. J'ai ressenti la pression. Puis elle me mettait au fond de la classe parce que je suis grand, pour pas que je gêne les autres. Sauf qu'elle écrivait tout petit et j'ai des problèmes de vue. Et du coup, bah tout le début de l'année, je voyais rien au tableau. Elle mettait énormément de pression. Et même les autres professeurs, ils mettaient aussi énormément de pression. Je me souviens d'un moment, est-ce que c'était en 5e ou en 6e, en mathématiques, j'avais que des mauvaises notes parce que j'étais pas très bon. Et la professeure, en redonnant les notes, déjà a donné toutes les notes à l'oral et a commencé de la meilleure jusqu'à la moins bonne. Elle arrive au niveau de 1 et je vois qu'elle a toujours pas donné ma note. Du coup, je savais que j'avais en dessous de 1. Et là, elle dit à voix haute, ouais, bien joué. Pour une fois, t'as pas eu 0, mais t'as eu 0,75. Et quand elle a dit ça à voix haute, je me suis senti grave mal. Je me suis senti humilié par la professeure et dénigré aussi. T'as 11 ans, tu te prends ça dans la figure dès le début de la 6e. Ça te dégoûte. Donc ça a été compliqué dès le début du collège, dès l'entrée, ça a été assez difficile. Mais ça l'a été d'autant plus après le Bataclan. Donc le vendredi soir, quand ça s'est passé, au tout début, j'étais dans ma chambre. J'entends du coup ma mère qui regarde la télé et qui met les informations. Je vois qu'il y a une histoire de prise d'otage ou d'attentat, je sais plus très bien. Et donc je retourne dans ma chambre devant ma console parce que je me dis ni plus ni moins, ça m'intéresse pas énormément. Puis j'entends mon téléphone qui commence à sonner avec les notifications des messages. Je regarde, je vois WhatsApp. Je me dis WhatsApp, bah, c'est le groupe de ma classe, donc ça m'intéresse pas spécialement non plus. Donc je reste dans mon jeu et tout. Et puis vient le moment vers 22h où je me dis j'ai peut-être arrêté de jouer. Je prends mon téléphone, je regarde et je vois les élèves qui commencent à dire ouais, le prof d'anglais il était au Bataclan, ça se peut qu'il est mort. Dans ma tête, je réalise pas tout de suite. Et c'est vraiment lundi matin quand j'ai vu que tout le monde commençait à en parler autour de moi, qu'il y a vraiment eu cette histoire de cérémonie. Ouais, c'est vraiment ce moment-là qui m'a fait comprendre que c'était fini, qu'il allait plus revenir. Et du coup, ça m'a fait un blocage total. Ce prof, c'était quelqu'un qui m'avait su faire aimer l'anglais. Quand t'es au collège, avoir un professeur qui te fait aimer une matière, bah tu t'attaches vite à ça, puis c'est pas tous les professeurs qui sont comme ça. Et enfin, c'était quelqu'un que tout le monde aimait. C'est un mec, ses cours, carrément, il te les faisait en musique. Au début à la fin, il nous faisait chanter une chanson. C'était entre guillemets le moyen qu'il avait de nous dire bonjour et de nous dire au revoir. C'était des cours géniaux, c'était limite la perfection. Pour moi, c'était le moment le plus important de toute la semaine. Même le prof, en lui-même, personnellement, c'était quelqu'un que j'appréciais. C'était une personne à te, je sais pas, à dégager une énergie spéciale, à te donner du peps pour la journée. C'était, même quand je le croisais dans les couloirs et tout, il était super sympa, il disait bonjour avec un grand sourire. Et le fait d'être en cours avec lui et de se sentir intéressant, on va dire, c'est quelque chose qui t'encourage. Donc ça te fait reprendre confiance en toi-même, reprendre confiance aussi en tes camarades. C'est-à-dire, il y avait, même s'il pouvait avoir une embrouille dans la classe, pendant ce moment-là, l'embrouille, elle n'existait plus. Enfin, quand t'as vu ce qui s'est passé avant dans ma vie, je pense que je suis sûr que c'était vraiment quelqu'un qui m'aidait beaucoup sans le savoir, sans forcément que je le dise. Ouais, je l'aimais beaucoup. C'était un peu, je dirais pas comme un père, mais je dirais plus comme un pilier, comme un point de repère. Alors moi, mon père, il a pas souvent été là. Il était là que petit. Après, bon, il y a eu le divorce de mes parents, donc ça veut dire qu'il était plus chez moi. Bon, je le voyais toujours, mais occasionnellement. Une fois par semaine, voire une fois toutes les deux semaines, voire une fois par mois. Genre, ouais, c'est quelque chose qui manque, et quand t'arrives à trouver un repère après, et qui part comme ça, tu te dis, ouais, quand même, ça fait bizarre. Donc, il y a eu un hommage qui leur a été rendu au sein de l'école, et c'est à partir du moment de l'hommage où est-ce que j'ai commencé à prendre peur. Je sais pas pour quelle raison, mais genre très vite, après ça, je voulais plus aller à l'école, je voulais plus sortir de chez moi. Je voulais juste rester dans ma maison. J'avais peut-être peur à ce moment-là du monde extérieur. Avec tout ce qui s'était passé, j'avais peur du monde extérieur. Mais cette peur-là, après, très vite, elle s'est plus visée sur l'école. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'angoissait, j'étais pas à l'aise. Même pas le fait d'apprendre, c'est juste le lieu. C'était un automatisme. Dès qu'on parlait d'école, je rentrais dans ma carapace et je m'isolais. Et j'avais envie d'entendre personne. Même si c'était ma mère qui me disait « Demain, tu vas aller à l'école, tu vas faire un effort. » Bah, je pouvais pas. Je me sentais pas bien. Carrément, ça arrive à un moment où est-ce que je faisais carrément exprès d'avoir de la température pour que ensuite l'infirmière me renvoie chez moi parce que je me sentais pas bien à l'école.
Comment tu faisais ?
Sur le chemin de l'école, je mettais ma capuche avec un gros manteau avec une fourrure au niveau de la capuche et je la mettais tout le long du trajet. Et je tapais des mini-coups d'accélération sur le trajet. C'est-à-dire que j'arrivais à l'école, j'étais en transpiration totale, j'avais chaud. Et forcément, quand j'allais à l'infirmerie, que la personne apprenait la température, elle voyait bien qu'il y avait de la fièvre, elle appelait ma mère et je rentrais chez moi. Et donc c'est une astuce que j'ai utilisée quelques temps. Après, pendant très longtemps, je sortais juste de chez moi, j'arrivais à mi-chemin, j'avais des bouffées de chaleur qui venaient, j'avais mal au ventre, et je rentrais. Juste rien que l'idée de me dire que je vais aller en cours, ça me rendait malade. Il y a même un moment, est-ce que je me souviens, parce que ma mère m'accompagnait, elle voyait la scène, et puis elle se disait pas, j'ai juste fait demi-tour pour faire demi-tour. Même si au début, comme tout parent, elle pensait que c'était juste une comédie ou une flemme d'y aller. Forcément aussi, quand t'es absent pendant longtemps, Les camarades, ils te posent beaucoup de questions, mode ouais, pourquoi t'étais pas là? Pourquoi t'as été longtemps absent? Moi, je savais pas quoi répondre, j'avais honte de leur dire, à écouter, je m'amuse à promener mon cartable, et puis, petite balade, petite promenade de santé, et je rentre chez moi, quoi. Je pouvais pas. Parce que je me suis dit, ils vont se dire, ah ouais, lui, il est bizarre, quand même. Puis, jusqu'au jour où est-ce que t'as une des personnes qui était dans ma classe qui m'a vu faire l'aller-retour. Et qui l'a dit à toute l'école. Et je me suis senti hyper gêné. Quand on m'envoyait des messages après sur les réseaux, ouais, pourquoi t'es pas venu? Comment ça se fait? Je savais pas quoi répondre. Donc tout ça a fait que je me suis encore plus renfermé sur moi-même. Et pour ma mère, je pense voir son enfant qui refuse d'aller à l'école, c'est quelque chose qui doit être assez particulier. Elle essayait de comprendre, sans forcément pour autant réussir à comprendre. Elle essayait surtout de me raisonner. Elle essayait de me donner envie d'y aller. Puis même les jours où j'y allais pas et que j'étais à la maison, elle me laissait pas non plus faire ce que je voulais. D'un côté, elle se disait « Ok, il va pas à l'école, mais au moins il traîne pas dehors. » J'étais vraiment cloîtré dans ma chambre, je sortais pas jusqu'au lendemain matin. Soit je jouais à la console, soit je jouais à l'ordinateur. Je me suis surtout très vite renfermé dans les réseaux sociaux, dans tout ce qui est internet. T'es derrière ton écran, puis les gens ils savent pas ce qui s'est passé avant. Ils te voient pas, ils savent pas commenter, puis tu peux mentir facilement aussi. Par exemple, quand j'entendais tous mes copains la veille qui disaient « Ouais, demain je vais à l'école », je disais « Ouais, moi aussi ». Alors que non, pas du tout. Mais très vite, tu trouves des gens aussi qui sont dans le même cas que toi. Et du coup, très vite, tu te sens compris. Pour moi, c'était comme reprendre une vie à zéro derrière mon petit écran. J'étais tout content. Et quand j'ai trouvé ce refuge-là, je me suis senti... C'est le seul moment, en fait, où est-ce que je me sentais vraiment moi, où est-ce que j'étais vraiment libre de ce que je faisais. Je me sentais ni jugé, ni dans un système scolaire, j'étais moi, quoi. Enfin, Internet, ça m'a appris beaucoup de valeurs que j'ai pas pu apprendre à l'école, comme par exemple le respect, même les langues, je les ai apprises à travers Internet. Et même au-delà de ça, c'est... À l'heure d'aujourd'hui, toutes les personnes que je connais, c'est des personnes qui sont sur Internet. Limite, t'en as que je considérais mieux que des gens que je voyais tous les jours dehors. Et même avant de me faire comprendre par des médecins ou quoi, c'est par des gens sur Internet que je me suis senti compris. Même avant que ma mère comprenne ce qui se passait, c'était par des gens sur Internet que je me suis senti réellement compris dans le mal-être que je ressentais, qui était l'école. Ma mère, c'est pas qu'elle comprenait rien, mais c'était plutôt que forcément, quand t'es une mère et que tu vois ton enfant qui est dans cette situation-là, t'es aussi dans une situation de détresse. Je voyais que ça la rendait mal, elle savait pas comment faire ni comment réagir. Je sais qu'elle a eu un parcours scolaire assez spécial, elle a travaillé très jeune, que ce soit sur les marchés, elle s'est très vite toute seule débrouillée. Mais je sais qu'elle veut vraiment que je réussisse, et surtout à ce moment-là, pour elle c'était important, parce que le collège ça te prépare au brevet. Et le brevet c'est le premier diplôme que t'as. Même pour moi c'était quelque chose d'important, mais il y avait rien à faire. Je savais pas mettre de mots réellement sur ce que je ressentais. Pour moi, c'était difficile de lui expliquer. Et du coup, bah, pour elle, c'était difficile de comprendre. J'étais dans le flou total. Et même si j'étais conscient de ce qui se passait à l'intérieur de moi, je savais pas pourquoi. En cinquième, pour être honnête, j'ai fait qu'un seul trimestre sur les trois. Et forcément, quand tu arrives dans cette situation-là, l'école, elle est obligée de prendre des mesures. Ça veut dire que j'ai été signalé au rectorat. Donc j'ai eu tout ce qui est assistante sociale, etc., qui sont venus à la maison en pensant que j'étais battu ou je ne sais quoi. Et bon, après, j'ai parlé avec elle, les choses, elles se sont arrangées petit à petit. Sauf que l'infirmière de l'école, elle a dit « c'est pas possible, faut aller voir quelqu'un ». Donc le soir même, ma mère elle a appelé l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Elle leur a expliqué la situation aux urgences. Et ils ont dit, ouais, il n'y a pas de problème, on vous le prend dans le secteur psy pour enfants, du coup. Donc je suis allé voir une psychiatre, je lui ai raconté toute l'histoire. Moi, j'étais dans une période à ce moment-là où est-ce que je pensais que j'étais en train de devenir dépressif. Puis directement, elle m'a rassuré, elle m'a dit non, c'est pas de la dépression que tu fais, c'est de la phobie scolaire. Il y en a qui avaient la phobie des araignées, d'autres qui avaient des phobies plus banales, et puis que moi, bah, c'était tombé sur la phobie de l'école. Quand elle m'a dit ça, je me suis senti rassuré déjà, parce que je me suis dit, bon, au moins je sais ce que j'ai. Puis je me suis senti énormément compris par cette personne. Parce que pendant un moment, je pensais limite que je devenais fou. Et au final, quand elle m'a dit que j'étais pas le seul, qu'il y avait d'autres gens qu'elle avait vus qui étaient dans le même cas que moi, voire pire, je me suis senti tout de suite apaisé et tout de suite mieux. Et encore, moi j'ai de la chance, parce que la psy que j'ai vue, elle a directement su comprendre ce que j'avais et elle a su m'orienter vers la bonne solution. Au début, il y a eu une première solution qui a été de me faire un emploi du temps aménagé, c'est-à-dire que j'avais que les matières principales, français, anglais, maths, histoire, donc j'avais que 2 heures de cours par jour presque, voire 4 heures. Mais malgré cet aménagement-là, ça n'a pas suffi. Donc après ça, elle m'a proposé une dernière solution. Vu que moi, c'était pas l'envie d'apprendre qui manquait, du coup, elle m'a dit, bah écoute, vu que toi, tu vas pas à l'école, on va faire l'école chez toi. On a trouvé une association qui envoie directement les professeurs chez moi. Et depuis, bah, c'est comme ça que je fais mes cours, c'est comme ça que j'étudie. Aujourd'hui, j'ai 18 ans et donc ça fait depuis l'âge de 12 ans que j'ai pas remis les pieds dans un établissement scolaire. Ça commence à faire quelques années quand même. C'est pas quelque chose dont je suis forcément nostalgique, mais c'est vrai que par moments, ça manque un petit peu quand même. De se dire aussi que je suis passé à côté de certaines choses. Peut-être des premières soirées, peut-être des premiers amours aussi, on sait pas. D'un côté, ça m'attriste, mais d'un côté, je me dis, maintenant, je suis fier de mon parcours. Aujourd'hui, je suis en première, et en 5 ans, il y a eu d'énormes progrès. Je suis passé d'un enfant qui sortait pas à quelqu'un qui maintenant sort presque tous les jours. Et je sais que sans le confinement, j'aurais peut-être mis plus de temps à évoluer. Parce que c'est un moment dans lequel on était justement obligé de rester chez soi. Sauf que c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu envie de sortir. Parce que du coup, c'était une contrainte qu'on m'a infligée. Ça a toujours été comme ça. Quand on m'a imposé de faire quelque chose, ça a toujours été difficile pour moi de le faire. Je sais que c'est paradoxal. Parce que se dire qu'il y en a plein, ça les a fait sombrer, limite, le confinement. Mais moi, ça m'a complètement retourné mon esprit et ça m'a donné l'effet inverse. Et après le confinement, petit à petit, j'ai réussi à sortir tout seul. En général, quand je sors dehors, c'est plus pour soit aller voir des gens, soit je sors comme ça juste pour le fun, juste pour le kiff. Je prends une trottinette électrique, je la déverrouille et je pars, je roule. Et dès que je vois une bouche de métro ou que j'ai plus envie de rouler, je m'arrête, je dépose la trottinette à l'endroit où il faut et je rentre chez moi. C'est un truc que je kiffe. Même aller voir des gens comme ça sur un coup de tête. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de prendre le train un matin, Paris-Avignon, juste pour aller voir une personne que j'avais rencontrée sur les réseaux et dormir chez elle. Sans mentir, j'ai passé 17 ans de ma vie cloîtré chez moi. Parce que même petit, je sortais pas beaucoup. Et c'est qu'à partir de mes 18 ans que j'ai commencé à prendre mon envol. Je me sens tellement mieux qu'avant. Il y a aussi le fait que j'ai perdu du poids. Je suis passé de 130-120 à 100, entre 100 et 110. Et j'ai fait ça en quelques semaines, quelques mois. Je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Parce que forcément, quand tu te sens mieux, t'es plus apte à voir des gens que t'as jamais vus. Après, il y a les filles, mais les filles, je pense que c'est subjectif encore. J'ai encore le temps. J'ai encore beaucoup de temps devant moi pour ça. Déjà, je pense que je vais me concentrer sur le bac. Je vais devoir retourner dans un établissement pour passer l'oral et l'écrit, et je pense que ça va être compliqué, mais on va essayer de faire avec. Après, je vais essayer de me concentrer sur retourner dans un système scolaire classique, comme la fac ou autre. Je pense que j'aimerais bien travailler dans un milieu avec du social, où est-ce que tu parles avec les gens. Pourquoi pas travailler dans une école maternelle ou quelque chose comme ça? Je pense que ça m'irait bien. Le problème, c'est que c'est assez paradoxal. Je veux travailler dans une école maternelle alors que j'ai peur de l'école. C'est vrai que quand j'y pense, ça me fait sourire. Mais je pense que c'est quelque chose qui je serais capable de prendre sur moi si j'aurais besoin pour ça. Parce que j'ai toujours aimé rendre service aux autres. Et je pense que avec le temps, je vais grandir, je vais apprendre. Et peu à peu, la phobie, elle va s'estomper. Enfin, du moins, j'espère. Ça sera sûrement difficile d'y arriver, mais s'il y en a qui ont réussi, pourquoi pas moi, quoi. C'est ce que je me dis tout le temps.
Je veux vivre et crier, marcher longtemps dans les rues, observer les gens muets dans la chaleur du soir, les bras nus, me nourrir uniquement de la nuit, de ses défauts et de sa folie, puis recommencer deux jours plus tard, faire ça toute ma vie. Monter en haut des toits, faire des portraits de mes amis, parler à des gens que je connais pas et m'en tirer sans trop d'ennui. Voilà, c'est ça ce que je veux. Des jours avec du soleil et de la pluie.
C'était des jeunes en mal d'école, un reportage de Sophie Simoneau autour des phobies scolaires réalisé par Sylvain Richard avec un coup de main d'Emmanuel Geoffroy. Merci à Jean-Baptiste, bien sûr à Chloé Pajot, Adèle Carsenti, Madame Dejean de la Bâtie de l'association Votre École chez vous. C'est Jeanne Copet, l'attachée de production des Pieds sur Terre, Justine Calais, notre stagiaire, et le deuxième épisode de cette petite série autour des phobies scolaires et du mal-être des jeunes à venir très vite.